Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR, un CQFR spécial parce que CQFR des finales. Donc CQFR avec Théo et Shai. Hier soir, il y avait le Game 3 entre Dallas et Boston. Ça se jouait à Dallas, premier match à Dallas, mais résultat similaire. Les Mavericks sont encore perdus. Ils ont perdu 99 à 106 contre les Celtics. Ça fait 3-0 pour Boston. À l'échelle de l'histoire, c'est insurmontable. A priori, il n'y a aucune équipe qui a jamais remonté un 3-0 dans l'histoire des playoffs. On peut commencer à se diriger clairement vers un titre des Celtics, mais je vais vous demander déjà ce que vous avez retenu de ce match en priorité.
Bah écoute, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, là, je pense que ce qui était fou dans ce match, c'est qu'il y avait plusieurs matchs à l'intérieur d'un même match, en fonction des cartons, quasiment en fonction des séries. On rigole parce que, allez, je vous la joue franc jeu, on a eu un bug qui est 100% de ma part, donc on recommence ce CQFR qu'on a déjà enregistré en partie tout à l'heure. Donc voilà, on va essayer quand même de garder la même énergie, et garder la même énergie comme Kamaru Usman aime bien le dire. Donc ouais, plusieurs matchs à l'intérieur de ce match. Match vraiment, je pense il va y avoir énormément de regrets du côté de Dallas. S'il y avait un match à prendre, c'était celui-là. Même si Boston a été très bon par moment, sur la fin, dans le quatrième quart-temps, ils ont tremblé et il y avait la place pour passer pour Dallas. Il y a tout un tas de choses, notamment on reparlera de Luka Doncic tout à l'heure, mais je pense que c'est un match qui risque de hanter longtemps les cauchemars des fans des Mavericks et des joueurs et du staff.
Ouais, j'ai le même sentiment que toi, c'est cette impression de plusieurs matchs dans le match, match hyper décousu avec Dallas qui attaque très fort, avec une deuxième mi-temps incroyable, un démarrage de deuxième mi-temps incroyable de la part des Celtics qui jouaient d'après moi quasi un basket de rêve où tout le monde trouvait les meilleures possessions, où il y avait les meilleures positions de tir, où il y avait une défense quasi parfaite. D'ailleurs, au final, Dallas finit encore sous les 100 points. Bon, la marque de fabrique, la défense de Boston a encore parlé. Et à côté de ça, enfin, donc dans le troisième, je pensais que le match était plié. À plus 21 pour Boston, ça me semblait quand même désespéré pour Dallas, vu la réussite en plus, l'adresse à 3 points des Celtics. Et puis là, il se passe, je ne sais pas quoi, un trou d'air de la part de Boston, 22. Ils reviennent quasiment à égalité. La nouvelle incompréhension, Jason Kidd qui prend un temps mort alors que Dallas est en train de rouler sur Boston et est quasiment revenu. D'ailleurs, Doncic montre sa
Ouais,
frustration
il comprend pas le
à ce
temps
moment-là,
mort,
il comprend pas du
j'ai
tout pourquoi.
pensé.
Et d'ailleurs, peu de temps après, derrière, en sortie de temps mort, Boston revient un peu plus avec la tête froide. Doncic se fait expulser pour 6 fautes à 4 minutes de la fin. Ça a déclenché pas mal de choses, à mon sens. Mais ouais, cette impression que même s'il y a eu plusieurs matchs dans le match et que Dallas a eu sa chance, comme tu l'as dit, Théo, j'ai l'impression qu'il peut rien arriver à Boston. Ils auraient pu plonger après avoir dilapidé leur avance et ils ont réussi à garder la tête froide, à retrouver les solutions. Jaylen Brown incroyable et au final ils sont. Bah, je vais aller jusqu'à dire que pour moi ils sont déjà champions parce que historiquement c'est jamais arrivé. Alors Boston l'année dernière s'est fait remonter un 3-0 pour finalement quand même l'emporter contre. Non, c'est
C'est
Miami
l'inverse.
pardon. C'est l'inverse. Je me mélangeais mais donc on peut revenir d'un 3-0 à 3-3 mais derrière ça a jamais fini en 4-3. Je pense qu'on peut déjà commencer à sabrer le champagne du côté de Boston. Ça ne veut pas dire que ça finira en sweep, mais là, ce qu'on a vu encore là dans un match qui était prenable et clairement à prendre pour Dallas, ça me fait dire que Boston peut déjà faire la fête.
Les Celtics qui jouaient sans Kristaps Porzingis et à mon avis vont jouer toute la finale sans Kristaps Porzingis à partir de maintenant. Donc ils ont intérêt à ce que ça dure pas non plus des masses. Pendant le match, on nous a appris que normalement ce genre de blessure c'est quand même 6 à 8 semaines d'avant d'absence. Alors les Celtics la jouent day to day pour Porzingis, mais a priori bah, il va pas rejouer quoi. Il devrait pas rejouer. Ça a pas eu d'impact hier dans le sens où les Celtics ont gagné. Je vais donner quelques stats. Il y a eu 35 points de Kyrie Irving. Qui s'est du coup réveillé offensivement. On a eu effectivement un sursaut de Kyrie Irving. 27 points de Luka Doncic. On va revenir après sur Luka. Donc, belle performance offensive au nombre de points de Kyrie et de Luka. Mais en face, le duo des Celtics a lui aussi haussé le ton. 31 points de Jason Tatum, son meilleur match offensif en termes de production sur cette série. Et 30 points pour Jalen Brown. Donc, ils ont tenu tête les Celtics. Comme j'ai dit, on va revenir sur Luka. J'ai envie de parler de Luka. Il a pris 6 fautes. Et j'ai pas du tout apprécié l'attitude de Luka Doncic sur ce match. Il était constamment en train de râler, mais oui, il y a eu des fois, effectivement, il y a eu des fautes non sifflées sur lui. Il y en a aussi sur Tatum. J'ai l'image de Tatum qui monte au dunk, qui se fait arracher le bras par PJ Washington. Luka, il y a plein de moments où il revient pas en défense, il est frustré. Et sur les 6 fautes en question, il y a des fautes vraiment débile. Je pense qu'il faut le dire comme ça. Il y a des fautes, c'est de la pure frustration. Il est... J'en ai une en tête sur Tatum, une sur White. Et comme on en parlait tout à l'heure, Théo, tu as rajouté, effectivement, même les dernières sont débiles. Les dernières fautes sont débiles. Et je vais te laisser la parole là-dessus, Théo. Mais franchement, Luka Doncic, sur ce match, on a retrouvé ses démons, en fait. Et il y a un moment, il va falloir dompter ses démons, tu vois.
Ouais, c'est clair. Bah, honnêtement, je pense que ce match, c'est sans doute le pire match de playoff que j'ai vu jouer Luka Doncic. Je pense que les fautes dont tu parles, elles sont effectivement... Alors, j'allais dire incompréhensibles. Non, elles sont compréhensibles. Il y a de la fatigue, il y a l'énervement. Mais elles sont en fait inexcusables si tu es ce type de joueur. Notamment les dernières. Tu ne peux pas te mettre dans une situation où tu vas handicaper ton équipe qui a... Ils sont à moins 3 à 4 minutes de la fin. Tu es un des joueurs les plus clutch des playoffs. Tu es un des meilleurs scoreurs de l'histoire même des playoffs en moyenne. Tu ne peux pas te permettre de prendre ta sixième faute. Tu ne peux pas te permettre de prendre ce risque-là, en fait. Et effectivement, c'est pour moi, c'est vraiment un... Là, c'est un manque d'intelligence de jeu. C'est un des joueurs les plus intelligents qu'on connaisse sur un terrain. QI basket, exceptionnel, vision de jeu. Mais là, c'est un manque d'intelligence de jeu. Et là, il va devoir apprendre de ça parce que... Voilà, on sait que tout le monde n'a pas des... Enfin, chaque superstar a un parcours à lui, mais dans les parcours de chaque superstar, on voit des moments où ils ont dû, comment dire, faire de l'introspection pour progresser. Pour Jordan, c'était face aux Pistons. Pour d'autres, il y a d'autres scénarios, mais pour Luka, là, il faut qu'il se regarde effectivement dans le miroir quelque part, parce que je ne dis pas que Dallas aurait gagné à coup sûr ce match, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas aidé Dallas à prendre ce match. Je pense que même ses stats offensivement sont... Enfin, au niveau de... Il fait un bon match d'un point de vue statistique, mais comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, je pense qu'il est un petit peu en trompe-l'œil ce match, si on regarde que la feuille de stats, et qu'il n'a pas été... Alors, ça va sonner super dur, en fait. Ce que j'allais dire, il n'a pas été au niveau, ça ne veut pas dire qu'il est... Il n'a pas été au niveau auquel il doit être si Dallas veut pouvoir gagner ce type de match. Et ce dont tu parles, Antoine, ça en fait partie sur ce match-là, clairement. La concentration, la façon de gérer ses émotions et de gérer ses fautes, là, pour moi, il est vraiment en défaut sur ce match.
On l'a vu, hein, c'est le Luka frustrant, frustré contre les arbitres, parfois contre son propre camp. Je me demande à quel point la fatigue mentale et physique n'a pas joué un rôle. Je sais que... On en a parlé tout à l'heure, c'est évidemment pas la seule raison, parce que ça lui arrivait plusieurs fois dans la saison alors qu'il n'était pas particulièrement fatigué. Là, le fait qu'il soit aussi ciblé, c'était tellement criant et visible que les Celtics insistaient à chaque fois sur Luka parce que sa défense n'était pas au même niveau que celle qu'il a proposée plus tôt dans les playoffs, parce qu'ils l'ont senti aussi frustré et capable de se frustrer de prendre des techniques. Il aurait pu en prendre 18 des techniques. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, entre les lancers de ballon vers les arbitres, entre ce qu'il disait, je ne sais même pas forcément dans quelle langue, mais il aurait pu en prendre un paquet. C'était le Luka frustré qui a un peu... quelque part, il a abandonné l'équipe à la fin parce qu'il a remis les clés à Kyrie, qui a fait son mieux, qui a même juste directement après l'expulsion, qui a tenu un peu la baraque et qui a maintenu un écart très très décent, mais ouais, c'est un match dont il pourra apprendre. On sait jamais si un joueur peut retourner en finale aussi facilement que ça. Il y en a, ils y vont 3, 4, 5 fois, mais faudra voir si la prochaine fois qu'il y sera, il pourra en tirer les leçons. Là, je repense à la sortie de Brian Windhorst dans la foulée, c'est pas forcément le plus virulent des analystes. Hein. Il est plutôt dans l'info, et ça lui arrive de temps en temps de donner un avis, mais il est sorti en disant que c'était quasiment une faute professionnelle et que c'était inacceptable pour un joueur. Un peu ce que tu as dit, Théo, hein, que c'était assez inacceptable qu'un joueur comme ça pénalise son équipe à un moment clé. Et ouais, là, je pense que ça en partie, c'est pas que lui, hein, parce qu'il fait, il fait tellement de choses déjà. Il a tellement fait de choses pour que Dallas en arrive jusque-là que on peut pas tout lui mettre sur le dos. Mais forcément, c'est le lot des superstars. On analyse ça par ce prisme-là aussi. Là, il n'a pas été à la hauteur, en tout cas mentalement et sur le plan des émotions, je suis d'accord.
Oui, peut-être même dans le jeu d'une certaine manière. Je voulais vous parler d'une stat. Les Celtics et les Mavericks ont mis autant de paniers hier soir, 38 chacun. Dallas a gagné la bataille du rebond. Dallas a perdu moins de ballons. Dallas a mis plus d'un lancer franc de plus. Et malgré ça, il y a une défaite de 7 points. Parce que Dallas a marqué 9 paniers à 3 points, les Celtics en ont mis 17. Alors, je ne veux pas juste jouer au jeu des mathématiques en mode, ouais, encore une fois, les 3 points des Celtics. J'aimerais parler de la construction du jeu, parce que oui, on reproche, pas on reproche, mais on trouve chiant que les Celtics y prennent beaucoup de 3 points, etc. Mais il y a un truc qui me frappe, et ça dépasse le cadre de ce Game 3, c'est vraiment une leçon, je pense, sur les 3 premiers matchs des finales, c'est la manière dont les Celtics trouvent leur tir et la manière dont les Mavericks trouvent leur tir. On a souvent dit Jaylen Brown, Jason Tatum, ils jouent peut-être tête baissée, c'est pas des playmakers, etc. Ils jouent des iso, bien sûr. Tatum en prend, des step back three. Ça nous fait marrer parce qu'il y a ce moment dans le match où il est mic'd up et il parle à ses coéquipiers. Il dit « Ouais, les gars, faut qu'on arrête de prendre des tirs à 3 points en step back. » Et il dit « Moi aussi, myself included », alors que le mec est le seul qui prend des step back à 3 points dans son équipe. Donc, c'est quand même très ironique, très comique. Mais bref, effectivement, Tatum, ça lui arrive. Mais dans l'ensemble, je trouve que Brown, Tatum jouent très juste. Et les Celtics jouent très juste. Et les Celtics trouvent des très bons tirs. Mazzulla met vachement l'accent là-dessus. Pareil, lui aussi était mic'd up. On a entendu ça quand il en parle. Les Celtics trouvent plein de bons tirs. Et ça explique aussi pourquoi ils prennent plein de 3 points. Parce qu'ils ont plein de possessions ouvertes. Parce qu'ils font bien circuler la balle. Il y a un drive qui mène à une passe, qui mène à une extra passe. Il y a plein de séquences comme ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des moments plus laborieux. Mais il y a quand même plein de séquences comme ça. Alors que du côté de Dallas, et je vais te laisser la parole là-dessus, Théo. On en vient à Luka, qui porte souvent beaucoup le ballon. Et on a à chaque fois le sentiment que c'est contre-productif. Toi, notamment le premier, tu milites pour du rythme. Dallas a mis du rythme au début de match. Il y a eu 22-9, puis 25-12, ils ont eu 13 points d'avance. Puis voilà, ça a recommencé à jouer lentement, à ralentir la balle, jouer beaucoup d'iso. Et ben forcément, ça amène des tirs beaucoup plus compliqués pour les Mavericks. Franchement, depuis le début des finales, c'est comme ça.
Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Antoine. Moi, je reviens tout le temps à cette histoire de rythme du côté de Dallas. Je pense que, vu les athlètes qu'il y a autour de Kyrie et de Luka, quand Dallas met du rythme, c'est une équipe qui a été intenable, en fait, jusqu'à ce stade de la saison, enfin, des playoffs, intenable. Et le début de match dont tu parles, ils mettent énormément de rythme, ils sont devant. Quand ils reviennent dans le quatrième quart-temps, ils remettent du rythme, ils repassent devant, ce qui se conjugue avec un énorme craquage dans l'attention de Boston, notamment défensivement. C'est vraiment défensivement qui pêche Boston à ce moment-là. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment tous les travers. Alors, parfois, je comprends pourquoi Kyrie et Luka portent un peu la balle. Parfois, je trouve même que pendant la saison, même sur le début des playoffs, on en faisait un petit peu trop avec le côté phagocyte, le reste de leur coéquipier, parce que je trouve que c'était pas toujours vrai. Mais dans ce cas, dans le cas précis de ce match, je pense que ça a vraiment été le cas et que PJ Washington, qui fait un très bon match, je trouve, encore une fois, pas simplement d'un point de vue statistique, mais dans le punch, en fait, quand il joue fort. Même à un moment, il y a un rebond défensif qui est contesté. Il va le chercher, il arrache des mains des Celtics. Je trouve que PJ Washington, c'est vraiment une des révélations de la saison pour moi.
Sa deuxième mi-temps, elle est vraiment très bonne sur tout ce que tu as dit. Le punch défensivement, même en attaque, ils ont commencé à l'alimenter alors qu'il a quasiment pas pris de tir en première mi-temps. Il a vraiment été, il a été important, je trouve, dans le retour, le fameux run dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, exactement. C'est un joueur sur qui tu peux compter. Il a pas peur du moment, quoi. Vraiment, il joue comme il faut. Mais derrière, en fait, la balle, les coéquipiers de Kyrie et de Luka ont pas suffisamment touché la balle, tout simplement. Même à la fin, quand ils reviennent fort là, sur le dernier tir, et je crois qu'ils sont encore à moins 3. Les Mavericks sont à moins 3, il doit rester moins d'une minute. Et Kyrie Irving prend un tir à 3 points super dur en fadeaway en partant sur sa droite. Personne touche la balle. Alors qu'ils sont revenus avec du rythme, avec différents joueurs qui touchent la balle, qui vont se battre au rebond offensif, etc. Et je pense que là, il y a. Ouais, Dallas, dans les leçons à retenir de ce match, il y en a pour Luka Doncic, clairement. Il y en a aussi pour cette équipe de Dallas qui, si elle veut vraiment jouer face à une équipe aussi forte que Boston, elle ne peut pas se permettre de jouer comme ça tout du long. Bien sûr, il y a des moments où ça va être comme ça. Bien sûr, fin de quart-temps, fin de match, même peut-être deux dernières minutes. Ok, tu fais de l'isolation pour Luka et pour Kyrie parce que ça paye, mais le reste du temps, il faut que tu mettes la pression sur la défense de Boston en continu. Et je pense que c'est vraiment ce qu'a pêché. Et je vais revenir sur juste un petit mot sur Jason Kidd, que j'ai trouvé excellent durant tous ces playoffs, sur sa capacité à choisir les bons joueurs au bon moment, à les faire sortir du banc pour être pertinent. Encore une fois, C'est facile à dire une fois que le match est terminé et que nous on analyse les matchs depuis notre canapé. Quand tu es un coach et que tu tentes des paris dans le moment, bah tu sais pas ce que ça va donner. Si là sur ce match-là, si Tim Hardaway Jr. avait été excellent, eh ben tout le monde aurait applaudi Jason Kidd. Mais au bout du compte, quand même, dans ces finales, je suis surpris, moi, du faible temps de jeu de Dante Exum et de Jaden Hardy dans une moindre mesure. Là, Exum, il a joué donc 3 minutes. Il a tout de suite dynamisé, mais un dunk énorme sur la
Ouais,
défense
gros
de
dunk.
Boston. C'est un joueur qui a été fiable à 3 points toute la saison. Je suis vraiment étonné de. En fait, j'aimerais bien savoir en fait pourquoi Jason Kidd a pensé que Tim Hardaway pouvait plus apporter que Dante Exum, que ce soit en attaque ou en défense. J'ai du mal à voir la raison et
Surtout
j'ai
qu'on a vu,
l'impression.
on a vite vu qu'Hardaway était pas, enfin les tirs qu'il ratait, c'est des tirs que normalement il est capable de mettre. Et le dernier, il est fou. C'est Derrick White qui essaye de faire faute sur lui. L'arbitre laisse couler et il est vraiment tout seul face à 3 points au panier. Il en a mis des milliers comme ça dans sa carrière et ça s'est vu assez vite quand même dans le match qu'il n'était pas dedans. Et j'étais surpris aussi en voyant le court passage d'Exum très très bon de qu'on le voit pas plus. Ouais, t'as raison.
Bah ouais, c'est clair, d'autant que Tim Hardaway, c'est aussi une des cibles. Il est ciblé tout de suite aussi hein, par Boston. C'est pas que c'est un défenseur catastrophique, mais c'est pas un très très fort défenseur. Et je trouve que, enfin, tu vois, Exum est pas un moins bon défenseur du
Ah
tout.
non,
Et il
non.
apporte plus de création potentiellement que Tim Hardaway. Enfin, tout ça pour dire, j'ai l'impression que globalement, Boston a pas su, pardon, Dallas décidément a pas suffisamment fait confiance à ses coéquipiers et enfin. À l'ensemble du groupe, et c'était intéressant à un moment. Enfin, quand on entendait Joe Mazzulla, il n'arrêtait pas de dire: Ouais, faut qu'on continue à jouer comme on sait le faire, qu'on se crée des meilleurs tirs encore. En gros, continuer de prendre les tirs à 3 points, mais simplement, faut que ce soit les bons tirs à 3 points, qu'on se précipite pas. Et j'ai l'impression que Boston a gagné aussi en restant sur ce qu'a fait sa force durant toute la saison et tous ses playoffs, et que finalement. Même si effectivement cette équipe de Dallas elle repose en grande partie sur Kyrie Irving et sur Luka Doncic, durant ces playoffs, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette équipe, c'est qu'elle a pu compter sur un groupe large qui a été performant et j'ai l'impression qu'ils sont un peu éloignés de ça.
Mais surtout que là, pour Boston, enfin, la différence entre les role players, l'implication des role players de Boston et de Dallas, là, elle a été criante aujourd'hui parce que quand on voit l'impact de Sam Hauser en sortie de banc, qui met 3 paniers à 3 points,
Excellent.
voilà, en défendant très bien aussi en plus, ce qui était plus surprenant. Xavier Tillman, parce que voilà, on a juste évoqué l'absence de Porzingis, mais on en parlait dans les autres CQFR. On se disait, bon, est-ce que ça va pas changer la donne? Est-ce que ça va pas permettre à Dallas de jouer plus sur ses forces et tout? Et Tillman, sur le temps de jeu qu'il a, défensivement, il a été très bon. Il a gêné Doncic plusieurs fois, il lui a fait rater des tirs que Doncic ne rate pas habituellement. Il met son tir à 3 points dans le corner, son premier tir tenté des playoffs à 3 points. Le banc exulte et bon, du coup derrière ils sont un peu relâchés, mais tu vois les role players en dehors de Pritchard qui a fait un passage assez anecdotique, les
Mais il
deux
était bon
rôles
en
autres
défense. Il
players,
a beau été bon en défense.
il a défendu, voilà. C'est vrai, faut préciser, offensivement il a été anecdotique alors que c'est plutôt sa force. Les deux autres ont été hyper impactants et on leur a fait confiance en fait. On leur a fait confiance là où les joueurs des Mavs dont tu parlais n'ont pas été, ont pas eu cette confiance accordée par ou Jason Kidd ou Doncic et Kyrie. Ça a aussi fait la différence, je trouve.
Sam Hauser, il a le plus gros plus-minus de tout le match, plus 16.
Il a été excellent. Il a été vraiment excellent, Sam Hauser. Mazzulla a pas menti quand il a dit que Sam Hauser était un bon défenseur. Il a vraiment
Ouais,
été
je
très
reconnais.
bon.
Je doutais, je lève la main parce que je doutais quand même, mais là, il a été excellent. J'ai rien à dire.
Et tu vois, Sam Hauser, c'est pas un meilleur joueur que les role-players de Dallas. Xavier Tillman, c'est pas un meilleur joueur que les role-players de Dallas et Peyton Pritchard non plus. Et ça c'est une. Il faut saluer le leadership au final du Mazzulla, de Tatum, de Brown, évidemment sans doute aussi de Holiday White. Mais il y a un truc quand même dans cette équipe des Celtics que personnellement j'avais pas senti venir. C'est l'atmosphère globale. Tu sens que Sam Hauser, il est encouragé à jouer comme ça. Tu vois, je pense que même s'il rate 4 tirs de suite, on va lui dire de continuer à shooter. Peut-être que c'est le cas aussi à Das, mais en fait, à Das, si tu rates 3 tirs de suite, on ne passe plus la balle. En fait, c'est si tu rates 2 tirs, tu rentres plus. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Alors, Tim Hardaway continue à jouer, mais tu vois, Jaden Hardy, j'ai l'impression que s'il veut jouer, faut qu'il se monte sur ses minutes directes parce que sinon, en fait, il ne revient pas sur le terrain par la suite, en tout cas sur ses finales. Alors que moi, je l'ai trouvé très intéressant aussi contre Minnesota. Exum, je suis comme toi, je ne comprends pas du tout pourquoi il n'est pas utilisé parce que Exum, en plus, il y a quelque chose qu'il a acquis en Europe, c'est la gestion des grands moments. Il a commencé sa carrière, oui, en NBA, il a joué au Jazz, c'était anecdotique, etc. Mais en Europe, il a quand même joué des matchs avec le Partizan dans des salles bouillantes, il a joué des matchs d'Euroleague. tu sens qu'il n'a pas peur. Hier, son entrée, elle est percutante. Effectivement, c'est un joueur qui pourrait être intéressant. Il met du rythme. Il est bon balle en main, Exum. Et en plus, il a fait des progrès à 3 points. Mais balle en main, Exum, à la base, c'est quand même un mec qui a été pris en 5e position à la draft parce qu'il y avait cette capacité théorique à créer des différences balle en main, parce que c'est un joueur athlétique. Oui, il ne le fera jamais au niveau d'une star, mais il est capable. Il est pas, voilà, intrinsèquement, ce n'est pas des joueurs moins forts que Sam Hauser, mais ils ne sont pas impliqués de la même manière, comme vous l'avez dit. Il y a un truc global. Et ça m'amène à Jaylen Brown et Jason Tatum. Alors oui, la victoire embellit tout. Et du coup, on est forcément impacté par le fait que les Celtics sont sur le point d'être champions NBA. Mais Tatum Brown, chapeau quand même. J'ai vraiment chapeau à ces mecs-là. La manière même dont eux se soutiennent entre eux, ça se voit qu'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Tu vois. Ça se voit que ce n'est pas des mecs qui traînent ensemble en dehors des terrains. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes cercles, ils n'ont pas les mêmes amis. De la même façon que Luka et Kyrie n'ont pas les mêmes amis, mais il y a un truc entre eux, il y a un respect, tu sens le respect, tu sens le respect dans le jeu. Et souvent, on a dit, ouais, ils n'ont pas cette symbiose sur le terrain. Alors moi, je trouve qu'ils l'ont de plus en plus.
Ouais.
J'ai vu l'évolution. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas toujours eu, c'est vrai, mais je trouve qu'ils l'ont de plus en plus. Et sur ce match, il y a plein de moments. Une passe de Tatum pour un panier de Brown, une passe de Brown pour un panier de Tatum. Ils se font un signe, il y a un truc, tu sens qu'il y a quelque chose. Mmh. Il y a une maturité. Oui, les Celtics se relâchent et c'est un vrai problème. Les Celtics se relâchent dès qu'ils sont devant. Et faudra voir, faudra pas qu'ils se relâchent à 3-0 parce qu'ils n'ont pas de Porzingis. Mais tu sens qu'il y a quand même un moment où on se dit, ah, c'est, maintenant c'est à nous. Et ouais, je sais pas, je crois dans un CQVR, j'avais dit, j'ai l'impression que les champions, à un moment, tu finis toujours par trouver quelque chose de beau en eux. Et là, moi, il y a quelque chose qui commence à se dégager dans cette équipe des Celtics, peut-être parce qu'elle se rapproche du titre, et peut-être je suis juste influencé, mais voilà, ce que font Tatum et Brown, ça me plaît. Honnêtement, je commence à avoir une forme d'admiration pour ce duo, en tout cas pour ce qu'ils font sur ces finales, et ça me fait plaisir de les voir jouer ensemble et de les voir se respecter. C'est des trucs tout bêtes, tu vois, mais ça va sur cette atmosphère globale de différence, de confiance entre les deux groupes.
Il y a un abandon de l'ego déjà chez Tatum, parce que c'est celui qui est identifié comme la star. Ça se voit dans le jeu, ça se voit dans sa communication, et c'est pas fin là pour le coup. Je pense qu'il se dit c'est le moment. Il faut, peu importe si je suis MVP des finales, si on considère que j'ai raté beaucoup de tirs. Dans ce match, ça a été assez correct. Hein, ça a été même très très fort en première mi-temps. Mais globalement, il a été historiquement maladroit pour un joueur en finale NBA au niveau du pourcentage. Et malgré ça, il arrive encore à faire d'autres trucs sur le terrain, à défendre bien, à lâcher la balle. Et c'est cette capacité à passer le témoin à Jaylen Brown quand il y a besoin qui fait qu'aussi ils ont été aussi forts. Parce que, bon, là, je pense qu'à l'instant T, je pense que Jaylen Brown est MVP des finales pour tout ce qu'il fait pour la défense.
Il était énorme, là. Il a été sur ce match-là.
La défense, son niveau défensif est très, très, très élevé. En attaque, il fait des trucs aussi qui. Il y a tout dans la panoplie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les drives un peu furieux avec un dunk énorme, là aussi, pendant leur gros run. Il démarre et il claque un truc d'une puissance assez folle. Il met des tirs très compliqués aussi, une espèce de fadeaway très bien défendu par je sais plus qui tombe vraiment en switch. Enfin, il est admirable aussi. Lui, il a vraiment, j'ai l'impression, atteint sa plénitude. Il s'exprime parfaitement. Et là, pour moi, c'est lui le MVP des finales. Il avait déjà été décisif en playoff plus tôt, hein, faut pas oublier. Il est sur une campagne
du MVP des finales de conférence.
Conférence. Il est sur des playoffs d'un très, très, très haut niveau. Et la symbiose qu'il y a et dont on a parfois douté par le passé, je veux dire, même nous, si on retrouve des émissions ou des articles d'il y a 2-3 ans, on se disait peut-être, bon, est-ce que c'est pas le moment de tenter quelque chose et de séparer le duo, c'est possible qu'on l'ait aussi envisagé. Hein. Mais le fait qu'il y ait ça qui est admirable dans leur histoire, c'est que ça fait 7-8 ans que tout le monde leur dit, bon, au bout d'un moment, alors qui est l'alpha, qui est le numéro 2, qui doit partir, qui doit rester, ils ne sont pas compatibles. Ils ont, à de très rares exceptions, où on a senti de la frustration, c'est chez Jaylen Brown, parce qu'il était dans les rumeurs de transfert. Antoine, tu l'as dit l'autre jour, il était, à chaque fois, c'était l'argument majeur d'un éventuel trade pour KD, pour d'autres. Ça s'est pas fait. À part ça, ils n'ont pas montré d'animosité l'un envers l'autre, et dans le jeu, ça s'est jamais ressenti. C'est pas à cause d'un manque d'alchimie entre les deux que Boston n'est pas passé les autres années. Hein. Et là,
non, c'est clair.
Là, ils sont vraiment au. Enfin, c'est oui, je suis d'accord, c'est admirable, et c'est ce qui fait aussi un peu le sel de cette équipe. Avec d'autres choses, hein, juste moi, la qualité de basket quand ils sont dans les gros, dans les bons moments là, défensivement avec Jrue Holiday. Regardez le match, hein, la défense de Jrue Holiday et le playmaking aussi. On parlait avant, là, tout à l'heure, de sa passe exceptionnelle main gauche pour Derrick White. Franchement, je l'ai remise trois fois la passe parce que je l'ai trouvé. Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Et puis, quand tu vois le ralenti vraiment rapproché, c'est juste une passe d'une qualité folle, quoi. Bref, voilà, sur Tatum et Brown, je suis d'accord avec toi, Antoine, c'est admirable.
Le gainage de Jrue Holiday, je pense que c'est niveau all world, n'importe quel sport, tout sport confondu, quoi.
Ouais.
Mais ouais, non, sur Brown, ouais, Brown, franchement, il a été excellent deuxième mi-temps. C'est vraiment, voilà, très fort. 8 passes décisives pour un mec qui a comme longtemps été justement critiqué pour son manque de capacité à créer le jeu. Pour ce que tu dis de, enfin, ce que vous dites toutes les deux là, de leur relation, en fait. Moi, j'ai toujours trouvé que ça se passait plutôt bien, hein, entre sur le terrain, même en dehors. Il n'y a jamais eu. C'est quand même ça. C'est en grande partie créé par les médias. Il faut bien reconnaître ce truc de c'est l'équipe de qui, machin. Même au sein d'une équipe, au bout du compte, je ne sais pas si les gens se posent forcément ce type de questions, quoi. Sauf si tu as deux mecs qui sont à fond. Enfin, je repense aux Lakers de Kobe et Shaq parce que les mecs ont cette personnalité où il fallait qu'on sache de qui c'est l'équipe. Ce qui fait la particularité de Brown et de Tatum, c'est qu'en fait, ces deux joueurs très forts qui ont des. Alors, ils ont des talents qui sont pas les mêmes, mais qui sont quand même relativement similaires, et que c'est dur en fait. Tu peux pas vraiment créer du jeu à deux en fait en disant bah on va les faire jouer ensemble et ça va nous créer des décalages justement parce qu'ils sont sur les mêmes postes. C'est pas comme quand t'as bah, par exemple Milwaukee, même si ça n'a pas marché, où tu dis bon bah on va faire jouer Damian Lillard et Giannis d'un côté du terrain et mettre un shooter de l'autre côté et derrière c'est indéfendable. T'as pas vraiment cette chose-là avec Boston et c'est. C'est là qu'il faut reconnaître ben, la qualité de ce que Joe Mazzulla a mis en place. C'est qu'en fait, quand même, dans ce collectif de Boston, finalement, même si c'est pas dans du jeu à deux, dans leur relation à deux, ça reste les deux fers de lance de cette équipe. Et j'entendais Bill Simmons, voilà, je sais pas, alors c'est pas un journaliste, mais l'animateur, créateur de contenu de The Ringer, là, qui est fan de Boston, qui disait, il se posait la question de savoir. En fait, quelle est la personnalité d'une équipe? Et il disait, voilà, il prenait des équipes championnes et il disait, bon, bah voilà, ça, c'est la personnalité de l'équipe, c'était ça. Et il disait, pour Boston, bah, la personnalité, c'est Brown et Tatum, en fait. C'est pas, t'as pas forcément un mec comme, par exemple, Dallas où tu dis, bon, bah, c'est Luka et Kyrie, mais c'est Luka d'abord et Kyrie en deuxième. Finalement, Boston, c'est Brown et Tatum, mais c'est 1A, 1B et ça peut changer d'un match à l'autre. On est tous d'accord, je pense, pour penser que Tatum a le plus de talent que Brown, mais au final, est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur joueur sur le terrain? Pas forcément. J'enlèverai un Tatum quand je dis ça. Hein. C'est pas pour dire que Boston serait une meilleure équipe sans Tatum ou si c'était Brown qui était mis en avant comme étant le franchise player. C'est qu'en fait, je pense que ce sont les franchise players de cette équipe et c'est ça qu'en fait un club, enfin une franchise atypique.
J'aimerais revenir sur Brown aussi un peu plus en détail. C'est le mec qui a le plus gros contrat de la ligue. Il a été. Là, si je te demande de citer les 15 meilleurs joueurs de la ligue. Bon, évidemment, il y a eu le match, mais en fait, très rarement, on va citer Jaylen Brown. Il ne va pas venir dans les 15 premiers. Très peu de moments où on va aller parler de lui dans les 15 premiers. Et pourtant, sur ces finales, tu te dis, mais en fait, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est fou qu'il y ait cette image. Alors, je ne sais pas si c'est parce que justement, il y a Tatum à ses côtés, mais Jaylen Brown est quand même un sacré basketteur. Je suis désolé, ce n'est pas une vraie analyse. Hein, c'est juste un constat de se dire, mais il est critiqué parfois. Enfin, il est critiqué. Il y a des trucs sur son contrat, le fait que c'est le joueur le mieux payé de la ligue, même si on l'a déjà répété plusieurs fois ici. Les contrats, ça veut absolument rien dire. C'est lié à une situation plus qu'à autre chose. Mais c'est aujourd'hui un des meilleurs joueurs de la ligue. Est-ce que Jaylen Brown aujourd'hui, vous le trouvez moins fort qu'un Donovan Mitchell ou un Ja Morant, honnêtement? Tu vois, des mecs qui sont forts, très forts.
Ouais, mais parce que ce dont on est sûr avec Jaylen Brown, c'est qu'il est ultra fiable déjà. Il est fiable. C'est pas un joueur qui est souvent blessé. C'est un joueur qui va toujours mettre ses points et qui a un niveau défensif qui est constant, qui fait pas de vagues, pas particulièrement de vagues sur le terrain ni en dehors, enfin à de très rares exceptions. C'est un joueur ultra fiable et c'est aussi une qualité chez les stars. On le verra peut-être jamais comme numéro 1 d'une franchise. Ce serait intéressant de le voir dans un autre contexte sans l'excellence qu'il y a autour et un joueur comme Tatum et tout ça. Moi, ça m'intéresserait de voir l'expérience, surtout là s'ils arrivent à gagner le titre ensemble. Mais ouais, là à l'instant T, je pense que ouais, tu peux le mettre top 15 sur le côté All-Around. Il est ultra complet maintenant.
Après, en fait, finalement, il a comme Tatum, tous les deux, leur cote, elle est un peu diminuée à cause de la force de cette équipe, quoi. Il y a un côté un peu à la. Quelque part, alors c'est pas du tout la même construction, mais un peu à la Spurs où même aujourd'hui, on a beaucoup de mal à évaluer le niveau effectif de joueurs qui étaient aux Spurs de la grande époque, je veux dire, avec Tim Duncan et compagnie. C'est pour ça qu'il y a toutes ces questions autour de Tony Parker, est-ce qu'il est meilleur que. Est-ce qu'il, au bout du compte, est-ce qu'il était meilleur que Nash ou Chris Paul? Enfin, en fait, tu peux jamais savoir parce que tu te demandes toujours, est-ce que c'est le talent de ces joueurs qui faisait faisait que l'équipe était aussi forte, ou est-ce que c'était parce que l'équipe était aussi forte que ça mettait en valeur ses joueurs? Je pense que pour Tatum et Brown, il y a vraiment ça, mais moi je suis d'accord sur ce que tu dis en termes de constance pour Brown, en fait, et c'est ça, c'est, enfin, tu sais ce qu'il va t'apporter. Alors tu sais, bien sûr, il va peut-être y avoir des balles perdues, bien sûr, il va peut-être y avoir des tirs ratés, mais ce mec-là, en fait, il est tout le temps en attaque. Il est tout le temps, même en défense, il est en attaque. Il attaque la balle. Et c'est jamais un mec qui est sur le reculoir, en fait. Et ça, c'est précieux. Et à la fin du match, quand il y a le moment de... Voilà, quand Boston laisse plus ou moins le match... Enfin, est sur le point de laisser peut-être le match lui échapper, bah, c'est lui qui remet du punch derrière.
Il
remet
le panier, il met le panier à une minute de la fin. Et qui, c'est là qu'il a douché les espoirs de Dallas, je trouve.
Et tu le vois, il est imperturbable. Enfin, je sais que l'apparence du visage peut être trompeuse, mais... la caméra passe sur lui, il est imperturbable avant le tir, après le tir, il a pas bougé. Tu le vois en conférence de presse, enfin au micro après le match, il est pareil. Il commence par complimenter Jason Tatum pour son bon début de match. Moi j'ai toujours beaucoup aimé Brown. J'ai trouvé quand même que l'année dernière il y avait une petite baisse défensive, mais cette année il est revenu dès le début de la saison. Il fait sa meilleure saison défensivement, et là encore sur ses finales il est énorme.
L'année dernière, c'est parce qu'il avait fait ses sessions de plongée sous-marine, de muscu sous-marine, vous vous rappelez là. C'est là. Dès qu'il, maintenant, depuis qu'il a arrêté, il est redevenu ce qu'il aurait dû être. Voilà.
C'est une très belle
transition. Allez voir les images. Juste
non, mais il y a des entraîneurs américains, les entraîneurs de skills américains ou les préparateurs physiques américains. Il y a quand même quelques escrocs qui arrivent à se retrouver près des joueurs NBA. C'est très fort.
Ceux qui jettent des objets, là, objets pendant que tu drives. Là,
Non, mais il y a de tout. Il y a ceux aussi, tu sais, le mec qui te fait le tout petit cercle et qui te dit si tu apprends à switch là-dedans, tu vas forcément. Enfin, il y a de tout. C'est assez comique. Sujet un peu plus sombre, je sais la transition est terrible, mais c'est la mort de Jerry West. Jerry West, une légende de la NBA qui nous a quittés hier à 86 ans.
86,
ouais. Jerry West, l'homme logo de la Ligue, un des plus grands joueurs de l'histoire de tous les temps. Un des plus grands joueurs de tous les temps.
Est-ce qu'on ne peut pas dire même, si on étend au hors-terrain, est-ce que ce n'est pas le plus grand Jerry West en fait? La question peut se poser parce que c'était un joueur formidable, c'était un Hall of Famer. Et en dehors, alors il a eu, comme coach, il a fait qu'une expérience très courte aux Lakers, mais ils ont été à chaque fois en playoff. Mais
contraint et forcé, hein. Il voulait pas.
Contraint et forcé,
il
voulait pas du tout. Ouais. C'est ça. Mais sur le hors-terrain, en tant que dirigeant, c'est totalement fou à quel point il a impacté la ligue. Le gars, il est à la base de 8 titres avec des franchises différentes. C'est lui qui a participé à la construction des Showtime Lakers. C'est lui qui a drafté Kobe, qui a réussi à faire venir Shaq. C'est lui qui a été aussi en partie, hein, il était plus dans un rôle de conseiller, mais les Warriors qui ont été champions, il était aussi dans le front office. Enfin, c'est un mec, c'est invraisemblable l'influence de ce mec-là. Comme joueur, c'était déjà une légende. Hein. C'était déjà 9 finales, une seule gagnée, mais 9 finales quand même. Ça a été le seul MVP des finales d'une équipe qui n'a pas gagné le titre. C'était un joueur ultra complet aussi, hein. C'est-à-dire qu'il a été dans des meilleurs 5 défensifs, c'était un bon shooter, meilleur scoreur, meilleur passeur, enfin, c'est une légende totale, légende parmi les légendes. Moi, j'ai titré l'article comme ça hier parce que c'était un mec incroyable.
Là, t'as raison, je rajoutais dans sa liste de choses comme j'aime, c'est lui aussi qui a fait coacher Pat Riley. Hein.
Oui.
C'est lui qui lui a donné l'opportunité d'être assistant aux Lakers, puis être coach des Lakers.
De toute façon, il va avoir une flopée d'anecdotes, d'histoires et de preuves qu'il a marqué la ligue et plusieurs équipes. Il a eu un passage aux Grizzlies aussi, enfin dont on se souvient à peine, mais il y a plein de choses où c'était un mec fascinant à écouter parce que il y avait à la fois une forme d'humilité. Tu vois, c'est pas un mec qui se met en avant. D'ailleurs, dans le projet dans l'histoire des Warriors, on l'a pas trop entendu, tu vois. Et à côté de ça, c'était vraiment un peu un gangster, pas dans le mauvais sens du terme, mais là récemment, je sais plus sa citation où il disait vous la racontez en disant que vous étiez des dogs. Moi, j'étais un loup, je les mangeais les dogs. Parfois, il te faisait des phrases comme ça, et à la fois, il avait un respect infini pour tout ce qui a été de son époque, avant, après, tout ça. Et en même temps, ce qu'il disait, par exemple, sur Victor Wembanyama, il est pas du tout il fait pas partie de ceux qui critiquent la génération actuelle. Il était constamment émerveillé par ce qui se passait en NBA. Il avait encore un rôle de conseiller aux Clippers, d'ailleurs. Il était encore dedans. Hein. Donc, c'est un mec qui... Voilà, ça m'a beaucoup attristé parce que déjà, je ne savais pas que son état de santé était précaire. Je l'avais trouvé fatigué dernièrement, mais comme beaucoup de gens de son âge. Et c'était un peu soudain. Et je pense qu'on a vraiment, vraiment perdu un mec absolument unique et qui a été peut-être aussi, aussi importants que des types comme il n'y en a pas beaucoup, je pense, en fait, qui ont été aussi importants que lui. Un Bill Russell, par exemple, Jerry West, pour moi, son empreinte sur la ligue, elle est digne d'un mec comme ça.
Yes, ouais. Je vous pardon, vas-y Théo, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
Non, juste, j'aurais juste une touche, mais effectivement, je pense que c'est la preuve en fait que ce mec-là, donc, qui a été surnommé Mr. Clutch, qui a perdu 8 des 9 finales NBA qu'il a disputées, c'est pour montrer aussi à quel point l'état d'esprit a changé autour du sport aujourd'hui par rapport à l'époque, et aussi à quel point c'était un très grand joueur, parce qu'effectivement tous les mecs de son époque te disent que c'était à quel point c'était un joueur extraordinaire. Son palmarès est dingue quand tu prends effectivement en tant que joueur et ensuite en tant que bâtisseur de franchise. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, je fais référence à ce que tu disais Shaila, c'est que ça n'a jamais été un de ces anciens joueurs à dire ouais, c'était mieux de mon époque, les joueurs de maintenant, ils ont plus ci, ils ont plus ça. Moi, j'ai trouvé que c'est quelqu'un de passionné par le basket et qui a continué de suivre l'évolution du jeu et des joueurs et d'être manifestement toujours aussi autant en amour pour ce sport et pour ceux qui l'animent. Donc, grosse émotion pour moi aussi. Juste une anecdote personnelle, il était venu, alors ça remonte, hein, c'était même plus, mais maintenant c'était cette compétition qui s'appelait la Semaine des As, qui se jouait dans le championnat de France. Il était venu à Pau l'année où Mike Pietrus et Boris Diaw ont été draftés pour superviser un petit peu, les voir en vrai. Il était présenté au public, et en fait c'est un mec qui avait un aura particulier. C'est quelque chose qui s'explique pas forcément, mais ça m'a, enfin, je me rappelle encore aujourd'hui, ça m'a fait quelque chose de me dire, putain, c'est Jerry West, quoi. C'est le logo, c'est la légende de l'époque, tu vois. C'est, même si t'es dans la salle, dans une grande salle, et t'es de l'autre côté du terrain, tu le vois pas bien, c'est vraiment quelqu'un qui avait cette aura et cette simplicité dont tu parlais, Shai. Voilà, je pense que là, l'hommage hier en ouverture du match était très beau, très classe. Limite, ça aurait eu encore plus de sens que ça se passe à Boston, vu leur longue joute. C'est quand même quelqu'un qui pouvait plus voir la couleur verte, supportait plus le vert, hein, tellement il avait perdu contre les Celtics. Donc je pense qu'il y aura d'autres hommages, en tout cas. Voilà,
on va s'arrêter là-dessus, les gars. Cet après-midi, yes, sur la chaîne, il y aura le replay de la late session. On se retrouvera demain pour un CQFR avec Shai, et le prochain match, si je dis pas de bêtises, c'est dans la nuit de vendredi à samedi,
c'est ça.
C'est ça, Game 4, avec la possibilité pour les Celtics de finir champion, ou pour les Mavericks de au moins sauver l'honneur en attendant de rejouer derrière un Game 5 à Boston. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.